Chapitre 9. De la fuite des Noldor. Quelque temps après, une grande foule s'était massée autour de l'anneau du destin, et les Valar étaient assis dans l'ombre car il faisait nuit. Mais les étoiles de Varda scintillaient au firmament et l'air était limpide, car les vents de Manwë avaient chassé les vapeurs mortelles et refoulé les ombres de la mer. Lors, Yavanna se leva et se tint debout sur Ezeloar, le tertre vert, mais celui-ci était noir et nu à présent. Et elle posa ses mains sur les arbres, mais ils étaient morts et ne brillaient plus, et chaque branche qu'elle touchait se rompait et tombait sans vie à ses pieds. Un cœur de lamentation s'éleva alors, et la multitude éplorée crut avoir bu jusqu'à la lie la coupe du malheur que Melkor lui avait versée. Or, il n'en était rien. Yavanna s'adressa aux Valar, disant « La lumière des arbres s'est éteinte et ne subsiste plus que dans les Silmarils de Fëanor. Quelle prévoyance fut la sienne ! Même pour ceux que l'on compte parmi les plus puissants sous Ilúvatar, il est une œuvre qu'ils accompliront une fois et une fois seulement. À la lumière des arbres ai-je donné existence, et jamais plus ne le pourrai-je au sein d'Ea. Mais s'il m'était donné ne serait-ce qu'un peu de cette lumière, je pourrais ramener les arbres à la vie, avant que leurs racines se corrompent. Guérie serait alors notre blessure, et la malignité de Melkor serait confondue. » Lors, Manwë prit la parole et dit « Entends-tu, Fëanor, fils de Finwë, les mots de Yavanna ? Accorderas-tu ce qu'elle n'ose demander ?» Il y eut un long silence, mais Fëanor ne répondit rien. Alors Tulkas s'écria « Parle, ô Noldo, oui ou non, mais qui refuserait à Yavanna ? Et la lumière des Silmarils ne fut-elle pas au départ issue de son œuvre ?» Mais Aolé l'artisan dit « Ne sois pas si pressé. Nous demandons une plus grande chose que tu ne le peux savoir. Laisse-lui encore un répit. » Mais Fëanor parla alors, et il cria d'une voix amère « Pour les humbles comme pour les plus grands, il est une œuvre qu'ils ne peuvent accomplir qu'une fois, et en cette œuvre leur cœur réside. Il se peut que j'advienne à défaire mes joyaux, mais jamais n'en pourrai-je refaire de semblables. Et si je dois les briser, je me briserai le cœur et j'en serai tué, premier de tous les Eldar en Aman. » Non, pas le premier, dit Mandos. Mais ils ne comprirent cette parole, et il eut de nouveau un silence, tandis que Fëanor ruminait dans le noir. Il se voyait cerné par un anneau d'ennemis, et les paroles de Melkor lui revenaient, à savoir que les Silmarils n'étaient pas à l'abri, s'il était vrai que les Valar les convoitaient. « Et n'est-il pas Vala tout que comme eux » pensa-t-il. « Et ne voit-il pas clair en leur cœur ? Oui, un voleur reconnaît ses semblables. » Alors il s'écria « Je ne ferai cette chose de mon plein gré. Mais si les Valar m'y contraignent, alors je saurai que Melkor est bien l'un des leurs. » Lors Mandos dit « Tu as parlé. » Et Nienna se leva et gravit le tertre des Eloar, et elle rejeta son capuchon gris. Et de ses larmes, elle lava les souillures d'Ungoliant en une triste mélopée où elle pleurait l'amertume du monde et le marissement d'Arda. Mais tandis même qu'elle pleurait, des messagers accoururent de Formenos, des Noldor avec eux aussi de funestes nouvelles. Car ils rapportaient que des ténèbres aveugles avaient envahi le Nord et qu'en leur sein allait un pouvoir sans nom. Et les ténèbres en émanaient. Mais Melkor était là aussi, et il s'était rendu à la demeure de Fëanor et avait tué Finwë, roi des Noldor, devant ses portes, répandant le premier sang dans le royaume béni. Car Finwë était le seul à n'avoir fui devant l'horreur des ténèbres. Et ils annoncèrent que Melkor avait brisé les chambres fortes de Formenos et dérobé tous les joyaux des Noldor qui s'y trouvaient amassés. Et les Silmarils avaient disparu. Lors Fëanor se redressa, et levant une main devant Manwë, il maudit Melkor, le nommant Morgoth, le noir ennemi du monde. Et chez les Eldar, il ne fut jamais plus désigné autrement que par ce nom. Et Fëanor maudit aussi la convocation de Manwë et l'heure où il avait pris le chemin du Taniquetil, croyant, fou de rage et de douleur, que s'il eût été plutôt à Phormenos, sa force lui eût valu un meilleur sort que d'être tué aussi, comme Melkor l'escomptait. Lors Fëanor quitta l'anneau du destin et s'enfuit dans la nuit, car son père lui était plus cher que la lumière du Valinor ou les ouvrages incomparables façonnés de ses mains. Et qui des fils des elfes ou des hommes a jamais tenu son père en plus haute révérence? Beaucoup s'affligèrent alors de la détresse de Fëanor, mais sa perte n'était pas que la sienne. Et Yavanna pleura auprès du tertre, craignant que les ténèbres n'engloutissent à jamais les derniers raies de la lumière du Valinor. Car si les Valar n'avaient encore pleinement compris ce qui venait de se passer, ils devinaient que Melkor avait reçu quelque secours d'au-delà des confins d'Arda. Les Silmarils avaient disparu, et ce pouvait paraître égal que Fëanor eût consenti ou non à Yavanna. Mais s'il avait consenti d'emblée, avant l'arrivée des messagers de Phormenos, peut-être ses actions eussent-elles suivi une autre voie. Or, à présent, le destin des Noldor était prêt de se jouer. Entre-temps, Morgoth, ayant échappé à la poursuite des Valar, parvint au désert d'Alaman. Ce pays s'étendait au nord entre les montagnes des Pelori et la Grande Mer, tout comme l'Avathar s'étendait au sud. Mais l'Alaman était une plus vaste terre, et entre le rivage et les montagnes se trouvaient des plaines arides, toujours plus froides à mesure qu'elles approchaient de la glace. Morgoth et Ungoliant traversèrent en hâte cette région, et passèrent ainsi les grandes brumes de l'Oyomure jusqu'au El-Karaxé, où le détroit séparant l'Alaman de la terre du milieu était rempli de glace aiguë. Et Morgoth le franchit et revint enfin dans le nord des terres extérieures. Ils poursuivirent leur route ensemble, car Morgoth ne pouvait échapper à Ungoliant, et son nuage ne le quittait pas, et tous ses yeux étaient sur lui. Et ils parvinrent dans les terres au nord de l'estuaire de Drengist. Or, Morgoth approchait des ruines d'Angband, où se trouvait autrefois sa grande forteresse occidentale. Alors Ungoliant vit quel était son espoir, et sut qu'il essaierait bientôt de lui fausser compagnie, et elle l'arrêta, le semant de remplir sa promesse. « Cœur noir, » dit-elle, « j'ai suivi tes ordres, mais la faim me tenaille toujours. » « Que veux-tu encore ?» répondit Morgoth. « T'es-tu adjugé le monde entier pour ta panse ? Je n'ai pas promis de te l'offrir. J'en suis le seigneur. »«
Pas autant, » dit Ungoliant. « Mais tu as là un grand trésor de Phormenos. Je le veux tout entier. Oui, des deux mains tu me le donneras. »
Lors, Morgoth n'eut d'autre choix que de lui céder les gemmes qu'il portait sur lui, une à une et de mauvaise grâce. Et elle les dévora, et leur beauté disparut du monde. Plus énorme et plus sombre encore devint Ungoliant, mais sa convoitise restait insatisfaite.
« Tu ne donnes que d'une main, » dit-elle, « la gauche seulement. Ouvre ta main droite. »
Dans sa main droite, Morgoth serrait les Silmarils. Et bien qu'enfermés dans un écrin de cristal, ils avaient commencé de le brûler, et sa main était crispée de douleur. Mais il ne voulait point l'ouvrir.
« Non, » dit-il, « tu as reçu ton dû, car c'est grâce à mon pouvoir placé en toi que tu as accompli ton œuvre. Je n'ai plus besoin de toi. Tu n'auras pas ces choses, ni ne les verras. Je les déclare miennes à jamais. »
Mais Ungoliant avait beaucoup grandi. Et lui-même était amoindri du pouvoir qu'il avait dépensé. Et elle s'éleva contre lui, et resserra sur lui son nuage, et elle l'emprisonna dans un lacis de bandes collantes pour l'étrangler. Lors Morgoth poussa un terrible hurlement, lequel fit retentir les montagnes. Et cette région fut dès lors nommée Lamoth, car les échos de son cri ne la quittèrent jamais plus, et quiconque s'avisait d'y élever la voix ne manquait de les éveiller. Et toute la désolation entre les collines et la mer résonnait d'une grande clameur, comme de voix transies d'épouvante. Le cri de Morgoth, à cet instant, fut le plus grand et le plus horrible jamais entendu dans le monde septentrional. Les montagnes frémirent, la terre trembla, les rochers se fendirent. Jusqu'aux profondeurs oubliées, l'entendit-on. Loin sous les ruines souterraines d'Angband,
en des cryptes auxquelles les Valar, dans la furie de leur assaut, n'étaient point descendus, se terraient encore des Balrogs, qui sans cesse guettaient le retour de leur seigneur. Et à présent, tous se dressèrent et accoururent, survolèrent le Hithlum et s'abattirent sur le Lamoth tel un feu orageux. De leur lanière de flamme, ils tranchèrent les filets d'Ungoliant, et elle prit peur et se mit en fuite, vomissant des vapeurs noires pour s'abriter. Et s'échappant du nord, elle descendit en Beleriand et s'attarda sous Ered Gorgoroth, dans ce sombre val que l'on nomma plus tard Nan Dungorteb, la vallée de l'horrible mort, à cause des horreurs qu'elle y engendra. Car d'autres ignobles créatures de forme arachnéenne y habitaient depuis le temps de la fondation d'Angband, et elle s'accoupla avec elles et les dévora. Et même après qu'Ungoliant fut parti pour aller à son gré dans les terres oubliées du sud du monde, sa progéniture y demeura, tissant ses toiles hideuses. Du sort d'Ungoliant, nul récit n'a rendu compte, mais d'aucuns ont dit qu'elle périt il y a longtemps, quand dans son extrême famine, elle finit par se dévorer elle-même. Ainsi donc, la crainte de Yavanna de voir les Silmarils engloutis et précipités dans le néant ne se réalisa pas, mais il restait entre les mains de Morgoth. Et lui, ayant recouvré la liberté, rassembla tous ceux de ses serviteurs qu'il put trouver et gagna les ruines d'Angband. Là, il creusa de nouveau ses vastes cachots et souterrains, et au-dessus de ses portes, il érigea la triple cime du Thangorodrim, qu'un grand voile de fumée sombre enveloppait en permanence. Là, les hordes de ces bêtes et de ces démons devinrent incalculables en nombre, et la race des orques, engendrée longtemps auparavant, crut et se multiplia dans les entrailles de la terre. L'ombre descendit sur le Beleriand, plus noir que jamais, comme il sera ici raconté. Mais à Angband, Morgoth forgea pour lui-même une grande couronne de fer, et il se proclama le roi du monde. En gage de quoi, il sertit les Silmarils dans sa couronne. Ses mains furent brûlées au toucher de ses joyaux bénis, et elles restèrent à jamais noircies. Et jamais il ne fut libéré de la douleur de cette brûlure, ni de la rage qu'elle lui causait. Cette couronne ne quittait jamais sa tête, bien que son poids lui devint une mortelle lassitude. Il ne quitta jamais qu'une seule fois son domaine dans le Nord, secrètement et pour une brève période. En vérité, il émergeait rarement des profondeurs de sa forteresse, mais gouvernait ses armées de son trône septentrional. Et une fois seulement porta-t-il lui-même les armes tant que dura son royaume. Pour le moment, et plus encore qu'au temps d'Outumno, avant que son orgueil fût rabaissé, sa haine le dévorait, et il galvauda son esprit à dominer ses serviteurs et à leur insuffler le désir du mal. Néanmoins, sa majesté en tant que Vala lui resta longtemps, bien qu'elle inspirât désormais la terreur. Et quiconque lui faisait face, hormis les plus grands, se voyait plongé dans un gouffre de ténèbres et d'effroi. Or, quand ils surent que Morgoth était enfui du Valinor et que la poursuite avait été vaine, les Valar demeurèrent longtemps assis dans les ténèbres de l'anneau du destin, et les Maillards et les Vanyards se tinrent auprès d'eux et pleurèrent. Mais les Noldor rentrèrent pour la plupart à Tirion, lamentant le crépuscule qui gagnait leur belle cité. À travers le val obscurci de la Calakiria s'immissaient les vapeurs des mers ombreuses, enveloppant ses tours d'un manteau de brouillard, et le fanal de la Mindon brillait d'un pâle éclat dans l'obscurité. Puis soudain, Fëanor apparut dans la cité et appela tout le monde à se rendre à la haute cour du roi au sommet de Tuna. Mais la sentence de bannissement qui pesait sur lui n'était pas encore levée, et ce faisant, il se rebellait contre les Valar. Et donc une grande multitude s'assembla bientôt afin d'entendre ce qu'il avait à dire. Et la colline, et tous les chemins et les escaliers qui y montaient, luisaient du flamboiement des torches que chacun tenait à la main. Fëanor était un maître des mots, et son verbe pouvait enflammer les cœurs lorsqu'il voulait en user. Et cette nuit-là, il fit devant les Noldor un discours dont ils se sont toujours souvenus. Dures et implacables furent ses paroles, pleines de colère et d'orgueil. Et les Noldor, les entendant, furent poussés à la folie. Son courroux et sa haine étaient surtout dirigés vers Morgoth. Or, presque tout ce qu'il disait était inspiré des seuls mensonges de Morgoth lui-même. Mais Fëanor ne se dominait plus, dévasté par le meurtre de son père et angoissé par le rapt des Silmaril. Il revendiqua alors la suzeraineté des Noldor, Finwë étant mort, et il conspua les arrêter des Valar.
« Pourquoi, ô gens des Noldor ? » clama-t-il. « Pourquoi devrions-nous servir plus longtemps les Valar jaloux, qui ne peuvent nous garder non plus que leur propre royaume de l'ennemi qui les tourmente ? Et bien qu'ils soient désormais leur adversaire, eux et lui ne sont-ils pas d'une même espèce ? C'est la vengeance qui m'amène, mais vengeance ou non, je ne saurais demeurer plus longtemps en ce pays, auprès des parents de qui a oxy mon père et m'a ravi mon bien. Or je ne suis pas le seul brave dans tout ce peuple de braves. Et ne pleurez-vous pas tous la perte de votre roi ? Que n'avez-vous perdu aussi, muré dans cette terre étroite entre les montagnes et la mer ? Longtemps fut ici la lumière, qu'à la terre du milieu les Valar refusaient. Mais voici que les ténèbres ont nivelé le tout. Languirons-nous ici éternellement, endeuillés et oisifs, peuple de l'ombre et de la brume, à verser des larmes stériles dans la mer ingrate ? Où rentrerons-nous dans notre terre natale ? À Quivienen, l'eau rendait un son doux sous les étoiles sans nuages, et autour étaient de vastes contrées où un peuple libre put marcher. Elles y sont encore et nous attendent, nous qui dans notre folie les avons délaissées. Allons-nous-en, laissons au lâche cette cité. » Longtemps il parla, toujours exhortant les Noldor à le suivre et par leur propre valeur à conquérir leur liberté et de vastes royaumes dans les terres de l'Est avant qu'il fût trop tard. Car il répétait les fables de Melkor, à savoir que les Valar les avaient dupés et les voulaient garder captifs, afin que les hommes puissent régner en maître sur la terre du milieu. De nombreux Eldar entendirent alors parler pour la première fois des seconds. « Quelle belle fin ce sera » cria-t-il. « Mais la route sera longue et ardue. Dites adieu aux servages, mais dites adieu aussi au confort, adieu aux faibles, adieu à vos trésors. Nous en aurons bien d'autres. Ne vous encombrez pas, mais prenez vos épées, car nous irons plus loin qu'Oromë, peinerons plus longtemps que Tulkas. Jamais nous ne lâcherons la poursuite. Sus à Morgoth jusqu'aux confins de la terre. La guerre lui apporteront, et une haine immortelle. Mais quand nous aurons triomphé et reconquis les Silmarils, alors nous, et nous seuls, serons seigneurs et maîtres de la lumière immaculée, de la beauté et de la félicité d'Arda. Aucune autre race ne nous évincera. » Puis Fëanor jura un terrible serment. Ses sept fils bondirent aussitôt à ses côtés et firent tous ensemble le même vœu, et leurs épées nues parurent teintées de sang au rougeoiement des torches. Ils prononcèrent un serment, inviolable autant qu'impensable, sur le nom d'Ilúvatar même, appelant sur eux les ténèbres éternelles s'ils ne le tenaient point. Et ils prirent Manwë à témoin et Varda, et la montagne sacrée du Taniquetil, jurant de poursuivre aux confins du monde avec vengeance et haine, Vala, démon, elfe ou homme encore à naître, où toute créature grande ou petite, bonne ou mauvaise, que le temps apporterait d'ici la fin des jours, qui tiendrait, prendrait ou garderait un Silmaril en sa possession. Ainsi parlèrent Maedros et Maglor, Celegorm, Curufin et Carantir, Amrod et Amras, princes des Noldor. Et beaucoup tremblèrent devant ces terribles paroles, car un serment ainsi prêté, bon ou mauvais, ne saurait être trahi, ni manquer de poursuivre jusqu'au bout du monde les fidèles comme les parjures. Fingolfin et son fils Turgon s'opposèrent donc à Fëanor, et des paroles acrimonieuses furent prononcées, de sorte que la colère manqua encore une fois en arriver au fil de l'épée. Mais Finalfin parla doucement, comme à son habitude, et voulut calmer les Noldor, leur enjoignant de s'arrêter pour réfléchir avant de commettre des actes irréparables. Et Orodreth, seul parmi ses fils, parla de même. Finrod se rangea du côté de Turgon, son ami. Mais Galadriel, seule femme des Noldor debout ce jour-là, altière et courageuse, parmi les princes antagonistes,
était impatiente de partir. Elle ne prêta aucun serment, mais les paroles de Fëanor avaient embrasé son cœur, car elle désirait contempler les vastes terres sans défense et y régir un royaume selon son propre gré. De même avis que Galadriel était Fingon, fils de Fingolfin, lui aussi ému par les paroles de Fëanor, bien qu'il ne l'aimât guère. Et du parti de Fingon se rangèrent comme toujours Angrod et Aignor, les fils de Finarfin. Mais ceux-ci gardèrent le silence et n'intervinrent pas contre leur père. Enfin, au terme d'un long débat, Fëanor l'emporta, et il enflamma la plupart des Noldor assemblés en ce lieu du désir de nouveautés et d'étranges pays. Ainsi donc, quand Finarfin plaida encore une fois la prudence et l'attente, une grande clameur s'éleva.
« Non, partons !»
Et aussitôt, Fëanor et ses fils s'apprêtèrent à la grande marche. Il n'y avait point de certitude pour qui osait s'engager sur une route aussi sombre. On y mit pourtant trop de hâte, car Fëanor se montrait insistant, de crainte de voir les cœurs se refroidir, ses discours perdre de leur poids et d'autres conseils l'emporter. Et malgré sa superbe, il n'oubliait pas la puissance des Valar. Mais de Valmar ne vint aucun message, et Manwë resta silencieux. Pour lors, il ne voulait ni interdire ni entraver le dessein de Fëanor, car les Valar se désolaient de ce qu'on leur prêta une intention malveillante à l'égard des Eldar ou quelque volonté de les retenir contre leur gré. Or, ils se contentèrent d'observer et d'attendre, car ils persistaient à croire que Fëanor ne pourrait garder la multitude des Noldor en son pouvoir. Et de fait, lorsque Fëanor entreprit de rassembler les Noldor pour le départ, des dissensions apparurent aussitôt. Car s'il avait pu en rallier autant à sa cause, tous n'étaient pas disposés, loin s'en faut, à prendre Fëanor pour roi. On vouait un plus grand amour à Fingolfin et à ses fils et ceux de sa maison, comme la plupart des habitants de Tirion, ne voulurent pas renoncer à lui s'il entendait marcher avec eux. Par conséquent, c'est en deux armées divisées que les Noldor s'engagèrent enfin sur leur pénible route. Fëanor et sa suite allaient en tête, mais en second venait la troupe la plus nombreuse suivant Fingolfin. Et celui-ci marchait à l'encontre de son bon jugement parce que Fingon, son fils, l'y incitait, et parce qu'il ne voulait se séparer des siens qui désiraient partir, ni les abandonner à la témérité de Fëanor. Il n'oubliait pas non plus les paroles qu'il avait prononcées devant le trône de Manwë. Aux côtés de Fingolfin, alla aussi Finarfin, et pour de semblables raisons. Mais ce départ lui répugnait fort, et de tous les Noldor du Valinor, désormais un peuple fort nombreux, seule la dixième partie ne voulut prendre la route. Les uns par amour pour les Valar, et pour Aolé en premier lieu, les autres pour l'amour de Tirion et des nombreux ouvrages qu'ils y avaient faits. Aucun par peur des hasards de la route. Mais au moment même où Fëanor passait les portes de Tirion au chant de la trompette, un envoyé de Manwë se présenta enfin, disant « À la folie de Fëanor, je n'opposerai que mon conseil. N'allez pas plus avant, car l'heure est funeste et votre route conduit à un malheur que vous ne sauriez présager. Dans cette quête, les Valar ne vous prêteront aucun secours. Mais aucune entrave ne vous sera faite, car sachez ceci. Vous vîntes ici libre de vos mouvements, et libre vous repartirez. Quant à toi, Fëanor, fils de Finwë, ton serment te vaudra l'exil. Des mensonges de Melkor, tu seras amèrement détrompé. C'est un Vala, dis-tu. En ce cas, tu auras juré en vain, car jamais tu ne triompheras d'aucun Vala dans les Haldea. Ni maintenant, ni aucun autre jour, quand bien même Eru, dont tu invoques le nom, tu fais trois fois plus grand que tu ne l'es. » Mais Fëanor rit, et il ne s'adressa point au héros, mais au Noldor, disant « Eh bien, ce vaillant peuple enverra-t-il son souverain héritier dans un exil forcé avec ses seuls fils, content de retourner à ses fers? Mais à ceux qui voudraient me suivre, je dis, avez-vous présage d'un malheur ? Car en Aman, nous y avons goûté. En Aman, nous sommes passés de la félicité au désespoir. À nous maintenant d'essayer l'autre voie, vaincre le malheur pour trouver la joie, ou à tout le moins, la liberté. » Alors, se tournant vers le messager, il cria « Dites ceci à Manwë Sulimo, grand roi d'Arda. Si Fëanor ne peut soumettre Morgoth, il ne tarde néanmoins à l'assaillir, au lieu de se complaire oisivement dans sa peine. Et peut-être Eru a-t-il placé en moi une flamme plus grande que tu n'en as connaissance. À l'ennemi des Valar, j'infligerai du moins une telle blessure que même les puissances de l'anneau du destin s'émerveilleront de l'entendre. Oui, dis-je, à la fin, elles suivront mes traces. Adieu. »
À ce moment, la voix de Fëanor prit une telle grandeur et une telle force que le héros des Valar lui-même s'inclina devant lui et partit sans demander d'autre réponse. Et les Noldor se tinrent quoi. Ils poursuivirent donc leur marche, et la maison de Fëanor se hâta devant eux le long des côtes d'Elendé. Pas une fois ils ne se retournèrent vers Tirion, sur la verte colline de Túna. L'armée de Fingolfin les suivait, plus lentement et avec moins d'ardeur. De ce groupe, Fingon allait en tête, mais derrière lui venaient Finalfin et Finrod, et de nombreux Noldor parmi les plus nobles et les plus sages. Et ils tournèrent souvent la tête, afin de contempler leur belle cité, jusqu'à ce que le fanal de la mine Don Eldalieva se perdit dans la nuit. Ils emportaient, plus que tous les autres exilés, le souvenir de sa félicité perdue, et même certains des objets qu'ils y avaient créés, un réconfort et un fardeau durant le voyage. Or, Fëanor les conduisit vers le nord, car son but premier était de suivre Morgoth. En outre, Túna, sous le Tanikwetil, se trouvait près de la ceinture d'Arda, là où la grande mer était incommensurablement vaste, tandis que vers le nord, les mers séparatrices s'étrécissaient toujours plus, à mesure que la désolation de l'Araman et les côtes de la Terre du Milieu se rapprochaient. Mais dès lors que son esprit s'apaisa et qu'il écouta les conseils, Fëanor s'aperçut trop tard que toutes ces immenses compagnies ne pourraient surmonter les longues lieues au nord, ni franchir les mers pour de bon, sans l'aide de navires. Or, il eut fallu beaucoup de temps et de labeur pour construire une telle flotte, si même il s'en trouvait parmi les Noldor qui fussent versés dans cet art. Ainsi donc, il résolut de persuader les Teleri, de tout temps amis des Noldor, de se joindre à eux. Et dans sa révolte, il se dit que la félicité du Valinor en serait encore plus amoindrie, alors que lui verrait augmenter sa puissance de guerre contre Morgoth. Il se hâta alors vers Alqualondë et s'adressa aux Teleri comme il avait d'abord parlé à Tirion. Mais les Teleri restèrent insensibles à tout ce qu'il avait à dire. Ils étaient certes chagrinés de voir partir leurs semblables et leurs amis de longue date, mais cherchaient plutôt à les dissuader qu'à les soutenir. Et ils ne voulaient prêter aucun navire, ni aider à en construire contre le gré des Valar. Et pour leur part, ils ne désiraient plus d'autres patries que les grèves d'Eldamar, ni d'autres seigneurs Colwë, prince d'Alqualondë. Et lui n'avait jamais prêté l'oreille à Morgoth, ni reçu ces derniers en son domaine. Et il avait toujours foi en Ulmo et en les plus grands des Valar pour réparer les torts infligés par Morgoth, confiant que la nuit laisserait place à une nouvelle aurore. Lors, Fëanor se courrouça, car il craignait encore de tarder, et il s'échauffa contre Olwë.
« Pleutre, qui reniez votre amitié à l'heure de notre détresse !» dit-il. Trop content pourtant de recevoir notre aide quand vous parvint à ces rivages, flâneur au cœur lâche, quasi dépourvu de tout. Vous logeriez encore dans des huttes sur la plage si les Noldor ne s'étaient appliqués à creuser votre havre puis échiner sur vos murailles. Mais Olwë répondit « Nous ne renions aucune amitié, mais peut-être est-ce le rôle d'un ami d'en réprouver un autre quand la folie le prend. Et quand les Noldor nous accueillirent et nous portèrent secours, vous eûtes d'autres paroles. En terre d'Aman devions-nous rester à jamais comme des frères en deux maisons conjointes. Mais pour ce qui est de nos nefs blanches, elles ne sont pas venues de vous. C'est tard, nous ne le devons pas aux Noldor, mais aux seigneurs de la mer. Et ces madriers blancs, nous les avons taillés de nos mains. Et ces voiles blanches, nos femmes et nos filles les ont tissées. C'est pourquoi nous les voulons donner ou vendre au nom de quelque alliance ou amitié. Car je vous le dis, Fëanor, fils de Finwë, ils sont pour nous ce que les gemmes sont aux Noldor.
l'œuvre de nos cœurs que jamais nous ne pourrons refaire. »
Sur quoi Fëanor le quitta, et tandis que s'assemblait son armée, il s'assit hors les murs d'Alqualondë, remuant de noires pensées. Lorsqu'il jugea sa force suffisante, il se rendit au havre des cygnes et entreprit d'investir les navires au mouillage et de les enlever par la force. Mais les Teleri lui résistèrent et précipitèrent de nombreux Noldor dans les flots. Les épées furent tirées, et un terrible combat fut livré à bord des navires et sur les quais et les jetées du havre éclairés de lampes, et même sur la grande arche à l'entrée. Par trois fois, les gens de Fëanor furent refoulés, et chaque camp souffrit de lourdes pertes. Mais l'avant-garde des Noldor fut secourue par Fingon et le front de l'armée de Fingolfin, qui, les rejoignant et voyant une lutte engagée et plusieurs de leurs frères tombés, s'y jetèrent sans bien savoir la cause de cette querelle. Certains crurent en effet que les Teleri, sur ordre des Valar, avaient voulu surprendre le cortège des Noldor. Ainsi les Teleri finirent par être submergés, et bon nombre de leurs marins établis à Alqualondë furent honteusement tués. Car les Noldor étaient désormais acharnés et prêts à tout, et les Teleri disposaient de moindres forces et n'étaient armés pour la plupart que de trop frêles arcs. Lors les Noldor s'emparèrent de leurs navires blancs et les garnirent comme ils le purent, et s'enfuirent à force de rames vers le nord le long de la côte. Et Olwë adjura Ossé d'intervenir, mais celui-ci ne vint pas, car il n'était pas permis par les Valar que la fuite des Noldor fût entravée par la force. Mais Winen pleura pour les marins des Teleri, et la mer se leva avec colère contre les assassins, de sorte que de nombreux navires s'abîmèrent, noyant ceux qui se trouvaient à bord. Sur le massacre fratricide d'Alqualondë, il est raconté davantage dans cette complainte appelée Noldolante, la chute des Noldor, que composa Maglor avant de disparaître. Néanmoins, la plupart des Noldor en réchappèrent, et quand la tempête fut passée, ils tinrent le cap, les uns sur la mer, les autres sur la terre ferme. Mais le chemin était long et toujours plus funeste à mesure qu'ils avançaient. Après avoir marché un long moment dans la nuit ininterrompue, ils atteignirent enfin la lisière septentrionale du royaume gardé, aux confins de la désolation d'Alaman, froid et montagneux. Là, ils virent soudain une grande forme sombre dressée sur un rocher surplombant le rivage. D'aucuns disent que c'était Mandos lui-même et nul autre héros de Manwë. Et ils entendirent une voix forte, solennelle et terrible, les semant de faire halte et de prêter l'oreille. Alors tous s'arrêtèrent et se tinrent immobiles. Et d'un bout à l'autre des armées des Noldor, on entendit cette voix prononcer la malédiction et la prophétie que l'on appelle la prophétie du Nord, ou encore le destin des Noldor. En de sombres paroles, elle prédit maintes choses que les Noldor ne comprirent pas, avant le jour où ces malheurs les accablèrent en vérité. Mais tous entendirent la malédiction qui fut proférée contre ceux qui ne voudraient pas rester, ni implorer le jugement et le pardon des Valar.
« Vous verserez des larmes innombrables !» Et les Valar vous fermeront les portes du Valinor, et vous serez exclus de telle sorte que pas même l'écho de votre plainte ne franchira les montagnes. Sur la maison de Fëanor, le courroux des Valar s'étend de l'Occident au plus extrême Orient, et tous ceux qui les suivront l'encourront également. Leur serment les guidera, et pourtant il les trahira et ne cessera de les priver des trésors mêmes qu'ils ont juré reprendre. Tout ce qu'ils entreprendront de bonne foi tournera mal, et cela adviendra par la traîtrise de l'un envers son semblable et par la crainte d'être trahi. Ils seront à jamais les dépossédés. Vous avez injustement versé le sang de vos frères et souillé la terre d'Aman. Vous rendrez le sang par le sang, et hors d'Aman, vous vivrez dans l'ombre de la mort. Car bien qu'Eru vous est destiné à ne point mourir en Ea, et que la maladie ne puisse vous assaillir, vous pouvez toujours être tué, et tué vous serez. Par les armes, par le tourment, par le chagrin. Et vos esprits sans logis viendront alors à Mandos. Longtemps y resterez-vous, à languir de vos corps, et vous y trouverez peu de pitié. Tous ceux que vous avez tués dussent-ils intercéder pour vous. Et ceux qui subsisteront en terre du milieu, sans aller à Mandos, viendront à se fatiguer du monde comme d'un grand fardeau, et s'effaceront, pareils à des ombres de mélancolie, devant la race plus jeune qui leur succédera. Les Valar ont parlé.
Bon nombre de Noldor tremblèrent. Mais Fëanor durcit son cœur et dit
« Nous avons juré, et non légèrement. Ce serment nous tiendrons. Nous voilà menacés de plusieurs maux. La traîtrise en est un et non des moindres. Mais il n'est pas dit que nous pâtirons de la lâcheté, des lâches ou d'avoir craint les lâches. Nous irons donc de l'avant, dis-je, et j'ajouterai ce présage. » Les hauts faits que nous accomplirons seront chantés et célébrés jusqu'au dernier jour d'Arda.
Mais en cette heure, Finalfin abandonna la marche et fit demi-tour, pris d'une immense peine et plein d'amertume envers la maison de Fëanor, étant donné son lien de parenté avec Holloway d'Alqualondë. Et bon nombre des siens l'accompagnèrent et revinrent sur leurs pas, le cœur lourd, jusqu'à ce que le lointain rayon de la mine d'Onne se dessina de nouveau dans la nuit au sommet de Tuna, et que le Valinor les accueillit enfin. Là, ils reçurent le pardon des Valar, et il incomba à Finalfin de diriger les Noldor restés au royaume béni. Mais ses fils n'étaient pas avec lui, car ils refusèrent d'abandonner les fils de Fingolfin. Et tous les suivants de Fingolfin persévérèrent, se sentant lié par le devoir de parenté et par la volonté de Fëanor, et craignant d'affronter le jugement des Valar, car tous n'étaient pas innocents du massacre fratricide à Alqualondë. Du reste, Fingon et Turgon avaient le cœur hardi et enflammé, et n'étaient pas enclins à se démettre de la tâche entreprise avant qu'il fût accompli, pour le pire s'il le fallait. Ainsi, le gros de l'armée poursuivit sa route, et le mal annoncé ne tarda pas à faire son œuvre. Les Noldor finirent par se trouver loin dans le nord d'Arda, et voyant flotter sur la mer les premières dents de glace, ils surent qu'ils approchaient du Helcaraxé. Car entre la terre d'Aman, qui dans le nord s'infléchissait vers l'est, et les rivages occidentaux d'Endor, c'est-à-dire de la terre du milieu, qui déviait vers l'ouest, il y avait un bras de mer étroit, où les eaux glaciales de la mer encerclante et les flots de Beleagaer se rencontraient. Et il y avait là de grands brouillards et d'immenses vapeurs d'un froid mortel, et les courants de mer étaient chargés de montagnes de glace qui s'entrechoquaient et du grincement des glaces submergées. Tel était le Helcaraxé, que nul n'avait osé traverser encore, sauf les Valar et Ungoliant. Fëanor s'arrêta donc, et les Noldor débattirent de la voie à suivre. Mais ils commençaient à pâtir du froid et des brumes persistantes qui ne laissaient percer aucune lueur d'étoile. Et nombre d'entre eux se repentirent du voyage et se mirent à maugréer, en particulier les suivants de Fingolfin, qui maudirent Fëanor, le tenant responsable de tous les malheurs des Eldar. Mais Fëanor, sachant tout ce qui se disait, délibéra avec ses fils. Et deux voies seulement leur apparurent pour échapper à l'Araman et parvenir en Endor. Par le détroit ou par la mer. Mais le Helcaraxé leur paraissait infranchissable alors que les navires étaient en nombre insuffisant. Plusieurs s'étaient abîmés au cours de leur long voyage et il n'en restait plus assez désormais pour convoyer toute la grande armée en une seule traversée. Or, aucune troupe n'était disposée à attendre sur la côte ouest pendant qu'une autre serait transportée. Déjà, la crainte d'être trahi avait surgi dans les rangs des Noldor. Ainsi donc il vint à l'idée de Fëanor et de ses fils de s'emparer de tous les navires et de partir tout subitement. Car ils avaient conservé la maîtrise de la flotte depuis la bataille au Havre, et elle n'était manœuvrée que par ceux qui y avaient pris part, tous des partisans de Fëanor. Et comme en réponse à son vœu, un vent du nord-ouest se leva. Et Fëanor se retira discrètement avec tous ceux qu'il considérait loyaux, et il s'embarqua et prit la mer, laissant Fingolfin en Araman. Et comme la mer était étroite à cet endroit, mettant le cap sur l'est et un peu sur le sud, il traversa sans encombre, et premier de tous les Noldor, posa de nouveau le pied sur les rivages de la terre du milieu. Et le débarquement de Fëanor se fit à l'embouchure de l'estuaire nommé Drengist qui ouvrait sur le Dorlomine. Mais lorsqu'ils eurent débarqué, Maedros, l'aîné de ses fils, dont Fingon avait été l'ami avant que les mensonges de Morgoth s'interposent, s'adressa à Fëanor et demanda « Quel navire, quel rameur renverrez-vous à présent? Et qui ramèneront-ils d'abord? Le vaillant Fingon ?»
Fëanor rit alors comme pris de folie, et il s'écria « Aucun ni personne. Ce que j'ai laissé là-bas ne m'est plus une perte. Un bagage inutile, voilà ce que c'était. Que ceux qui ont maudit mon nom me maudissent encore, qu'ils retournent en pleurnichant aux cages des Valar, qu'on brûle les navires !»
Maedros alors se mit à l'écart, mais Fëanor fit mettre le feu au navire blanc des Teleri. Ainsi, en ce lieu appelé Losgar, au bord de l'estuaire du Drengist, périrent les plus splendides vaisseaux qui aient jamais pris la mer, dans un grand incendie terrible et aveuglant. Et Fingolfin et son peuple en virent au loin le rougeoiement sous les nuages, et ils se surent trahis. Ce furent les premiers fruits du massacre fratricide et du destin des Noldor. Lors Fingolfin, voyant que Fëanor l'avait condamné à périr en Aramann ou à rentrer en Valinor dans la honte, sentit l'amertume monter en lui. Mais il désirait plus que jamais trouver un passage vers la terre du milieu et se tenir à nouveau face à Fëanor. Et lui et son armée errèrent longtemps dans la douleur, mais leur valeur et leur endurance se roidirent dans l'épreuve, car c'était un peuple vaillant que celui des enfants aînés et immortels d'Elu Ilúvatar, fraîchement issus du royaume béni et encore peu éprouvés par la lassitude de la terre. La flamme de leur cœur était jeune, et sous la conduite de Fingolfin et de ses fils, de Finrod et de Galadriel, ils osèrent affronter le nord le plus glacial. Et ne trouvant d'autre voie, ils bravèrent enfin la terreur du Helcaraxé et la cruauté des monts de glace. Bien peu d'exploits des Noldor ont jamais surpassé cette improbable traversée en fait de hardiesse et d'infortune. Elenwë, l'épouse de Turgon, y perdit la vie comme de nombreux autres. Et c'est avec une force diminuée que Fingolfin posa enfin le pied dans les terres extérieures. Ils ne portaient point dans leur cœur Fëanor et ses fils, eux qui allaient enfin sur leurs traces et dont les trompettes retentirent en terre du milieu au premier lever de la lune.